Ce soir, on va continuer encore la série de l'étude sur la vision de Dieu, sur l'appel que Dieu a mis sur notre vie, parce que Dieu nous appelle tout le monde. La Bible le dit, il y a beaucoup d'appelés. Tous ceux qui entendent la parole de Dieu puis qui commencent à cacher des idées sur Dieu, c'est un appel que Dieu fait. Il est en train de leur faire comprendre le chemin. Qu'il faut qu'il aille à Dieu, il faut qu'il passe par Jésus pour être pardonné, recevoir le Saint-Esprit. Puis là, Dieu, il y a une nouvelle vie qu'il a préparée pour les gens qui se donnent à lui. Dans cette nouvelle vie-là, le Seigneur veut habiter en nous, puis il veut nous conduire à ce qu'on marche, puis qu'on fasse les choses que Dieu, le Seigneur va mettre sur notre chemin. Puis dans notre marche de tous les jours, le Seigneur, il nous appelle à ce parce qu'il nous a donné des dons, des capacités, puis il nous appelle à ce qu'on se donne à lui, puis qu'on puisse mettre au service de son œuvre les dons qu'il nous a donnés. Puis là, plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, en lisant la Bible, en allant aux études, on apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître la parole de Dieu, puis on commence à comprendre de plus en plus ce à quoi Dieu nous appelle. Puis ça, quand on commence à comprendre ce à quoi il nous appelle, de mettre nos dons à son service, tout ça, il nous le montre clairement, de plus en plus clair, ça se devient comme une vision pour notre vie. Notre vision se développe, au début on ne comprend pas, on est juste là, on est content d'être sauvé, on est content d'être chrétien, puis là, à force de grandir dans le Seigneur, on réalise qu'on peut s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous appelle à s'impliquer, là Dieu veut qu'on mette nos dons au service des autres, puis là ça devient un appel, qui change en une vision. Là, on voit clairement ce que Dieu nous appelle, ce que Dieu nous a appelé. Ce soir, le titre du message, pour continuer dans cette idée-là, le Seigneur veut qu'on comprenne une chose dans ce qu'il nous a appelé. Il veut qu'on apprenne à chercher l'unité avec d'autres chrétiens pour atteindre notre vision. Il veut qu'on rentre dans notre vision, mais ce soir, le Seigneur veut qu'on comprenne que quand il nous appelle dans une vision, dans son plan que lui a préparé d'avance, c'est rarement des œuvres solitaires. C'est rarement des œuvres solitaires. Dieu, dans son plan, puis on va le voir à partir de la semaine prochaine, là, différentes choses qu'on peut s'impliquer dans son œuvre, mais dans son plan, c'est toujours avec une vision, un plan de groupe. Majoritairement, tout ce qu'on peut faire pour Dieu, ça va toujours être en groupe, majoritairement. Vous allez voir, quand on va y aller avec l'ensemble du message, vous allez comprendre la portée de tout cela. Dieu, il sait que si Daniel Poulain aurait accepté Jésus seul dans sa chambre, puis qu'il aurait été tout seul toute sa vie pour marcher dans sa vie chrétienne, c'est clair que Daniel Poulain ne serait pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il a formé ses 12 apôtres, il a dit à ses apôtres, « Allez, faites des disciples et enseignez-leur à observer. » Dans le plan de Dieu, Dieu veut qu'on apprenne une chose. Il veut qu'on apprenne qu'on n'a pas été sauvé pour rester dans notre chambre chez nous. On n'a pas été sauvé pour rester tout seul. On a été sauvé pour former une équipe avec d'autres chrétiens qui sont déjà là dans la course. Il nous a sauvés pour qu'on joigne un groupement de chrétiens qui sont déjà en train de marcher dans la volonté de Dieu. Puis le devoir des plus vieux chrétiens, c'est d'enseigner aux autres à observer ce que Jésus a enseigné. C'est de transmettre la connaissance, de transmettre les révélations, de transmettre les enseignements. C'est dans le plan de Dieu qu'on se réunisse avec d'autres chrétiens. Il veut pas qu'on reste seul dans notre chambre puis faire notre petite affaire tout seul. C'est pas un plan solitaire. Dieu, son plan, son appel puis la vision qu'il veut nous donner, c'est une vision de groupe. On va comprendre dans d'autres passages pourquoi que c'est ce sujet-là que je dois toucher ce soir. Dieu, il connaît la limite des humains. On a toutes des limites. Moi, j'ai mes limites. Toi, tu as tes limites. Chacun de nous, on a des limites. Quand Dieu a créé Adam, le premier humain, Dieu connaissait ses limites à ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour combler un gros besoin qu'Adam avait? Tout en partant,
une aide semblable à lui.
Il a créé une aide semblable à lui. Dans Genèse 2:18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu, il connaît nos besoins, il connaît nos limites. Il savait que c'était pas bon pour un humain d'être seul, puis de rester toute sa vie seul. Puis même si tous les animaux ont été vers Adam, puis Adam, il a vu tous les animaux, il a donné un nom à chaque animal, c'est une personne très intelligente, bien plus que moi. Parce que moi, j'aurais donné des noms à 5 animaux, puis le lendemain, je m'en souviendrai même plus. Mais lui, il s'en rappelait, puis il retransmettait la connaissance. Ça dit qu'il a donné un nom à chaque animal. Chaque animal qui a été... il a donné un nom. C'était un gars intelligent, mais il avait un problème. Il était seul. La solitude, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis Dieu a décidé d'y faire une aide semblable à lui. De sa côte, il a pris une de ses côtes, puis il a formé la femme. Puis la femme, c'est Adam, il a dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, est devenue l'épouse, sa femme. La celle que Dieu a placée à ses côtés pour être une aide, pour qu'elle puisse l'aider, le combler, l'accompagner dans toute sa vie, l'accompagner dans sa marche, dans ses travaux qu'elle avait à faire. Une femme est là pour seconder son mari dans l'appel que Dieu a mis dans le cœur de son mari. Puis la femme, elle comble. Elle ne fait pas comme il y a bien des fois des gens disent, c'est un fardeau, sont tannés, ils veulent s'en débarrasser. Non, elle est là pour l'aider, pour le soutenir, pour lui donner ce que lui y a besoin.
La femme agisse en conséquence aussi, parce que bien souvent, les gars qui veulent se débarrasser d'une femme, c'est pas parce qu'elle est bien fine et qu'elle l'est, là.
Je suis d'accord que, autant que l'homme doit réaliser que la femme est là pour son besoin, pour son aide, mais autant que la femme doit réaliser son rôle, qu'elle est là pour l'aider puis le seconder, puis les deux ensemble marchent ensemble pour rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Fait que la première étape de cette compréhension-là, c'est de comprendre que Dieu connaît nos besoins, puis il sait que c'est pas bon de travailler tout seul. Mais si quelqu'un aujourd'hui accepte Jésus comme son sauveur personnel, comme son Seigneur, mais il reste seul toute sa vie, comment est-ce qu'il va pouvoir grandir spirituellement s'il reste seul? Il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être aidé, il a besoin d'être enseigné. C'est là qu'on va le comprendre dans la suite. La Bible, elle nous dit, dans plusieurs passages, qu'il y a plus d'avantages à apprendre à s'unir avec les autres pour servir Dieu. Dans Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9, ça nous dit « Deux valent mieux qu'un. » Parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Voyez-vous, là, dans l'exemple qu'il nous est donné dans ce proverbe-là, c'est un proverbe, ça, quand même. C'est bon, c'est dans le plan de Dieu qu'on travaille en équipe. Tu travailles, tu fais des choses, à un moment donné, il y en a un qui tombe. Le tomber, c'est pas une tomber physiquement, tomber moralement, t'es découragé, t'en peux plus, t'es fatigué. Mais il dit quand que t'as un deuxième qui est avec toi, l'autre il te parle, puis il t'encourage, puis il t'aide, puis il te soutient. Fait qu'un travail d'équipe, il dit deux valent mieux qu'un. Parce que c'est un malheur pour une personne qui est seule, puis qui souffre de la solitude. En plus, il tombe, il est démoralisé, il est découragé, il est fatigué. Puis il s'écroule, puis il n'y a pas personne d'autre pour l'aider à se relever. Dieu, c'est dans son plan, puis il dit dans ce verset-là, même le verset 11 est un peu comique, « De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? » C'est quand un peu comique, mais c'est quand même une vérité. Mais aujourd'hui, on peut dire « on met une couverte électrique ». Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité, puis c'était, je ne sais pas, des maisons en blocs de ciment comme c'était, ça ne devait pas être chaud en hiver. C'était en hiver, Non, il y aura des maisons en pierre, en terre, en... Ça, c'est pas à une poche aussi, à postape. Là, ils se réchauffent un l'autre. Un autre, dans le même verset, il y a encore une autre idée pour nous exprimer cette même idée-là. Il dit, quelqu'un est plus fort qu'un seul, mais les deux peuvent lui résister. Ça veut dire, si quelqu'un vient pour te battre, puis il est plus fort que toi, mais si t'es deux, tu peux lui résister. Le point est que deux valent mieux qu'un. Là, il n'encourage pas la bataille, mais il encourage à travailler en équipe. Parce que tu vas être plus fort à deux. Tu veux pousser une roche, là, mais si t'es tout seul, c'est forçant. Si tu veux pousser ton char, c'est forçant, mais quand t'es deux, c'est plus facile.
Si c'est une main, c'est pas trop forçant.
C'est quand même assez dur.
Ah, c'est ça. Pour toi, pour se battre, ça a l'air fou de se battre tout seul.
Oui. Ouais.
Je suis là pour le faire l'arbitre.
Ouais. Puis là, il y a un autre qui clôture ce verset-là qui est excessivement bon comme point. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Mm-hmm. Tu prends une corde à un brin, ça se pète tout seul. Deux brins, ça se pète, mais quand tu en as trois, c'est pas aussi facile à briser. Plus tu rajoutes des brins à ta corde, plus qu'elle est forte. Vous regarderez les cordes de nylon là, qui sont excessivement raides, là. Mais c'est plein de petites cordes ensemble, toutes tressées. C'est ça qui fait la force de ce gros fil-là. Les cordes à linge, là, la corde à linge, mais la vraie corde, c'est tout un paquet de petites cordes tressées ensemble. Mais une fois qu'elles sont toutes tressées ensemble, c'est hyper résistant. C'est ça qu'il faut comprendre. En équipe, tu te renforcis. Un brin, ça pète facilement. Mais s'il y en a 100 brins qui sont joints ensemble, c'est une corde qui peut soulever une tonne. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, que Dieu veut nous faire comprendre ce soir, que dans l'unité avec d'autres chrétiens, ça va être plus facile d'accomplir notre vision. Dieu, ce qu'il faut comprendre aussi, il nous a greffés à un corps. Quand on se convertit, qu'on dit « Seigneur, là, je demande pardon de mes péchés », puis là, on croit que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, puis on dit « Seigneur, je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, puis là, je veux te suivre, je veux te servir ». Le Seigneur, il te pardonne de tous tes péchés, il te donne son Saint-Esprit, il y a une nouvelle vie qui commence, mais quand il te donne son Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Le même esprit de Dieu qui était dans l'autre croyant qui a donné sa vie au Seigneur, puis dans le même esprit de Dieu qui est dans l'autre croyant qui a donné sa vie au Seigneur. Fait que si sur la terre, il y a 100 millions de chrétiens sur la terre, c'est 100 millions de personnes qui ont reçu le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rentre en nous pour nous guider, pour nous conduire, pour nous enseigner la parole de Dieu, pour nous greffer à un corps. C'est là que je vais vous lire quelques versets, puis vous allez comprendre que quand tu deviens chrétien, c'est pas pour rester tout seul. Tu es greffé à un corps. Un corps, puis vous allez voir lequel corps que c'est. Nous avons tous, ça c'est dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Les 100 millions de chrétiens sur la terre, ils forment qu'un seul corps. Tu regardes à Montréal, là, la policier, la communauté urbaine de Montréal, l'ensemble des policiers, ils appellent ça le corps policier. C'est pas un policier tout seul qui régit toute la ville, c'est un ensemble de policiers qui forment le corps policier, qui représente la justice dans cette ville. Mais ça, c'est au point de vue humain. Mais au point de vue spirituel, tous les croyants ensemble, ils deviennent un seul corps. Puis quel corps sommes-nous? Ça dit, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que tu sois de la race que ça voudra, Dieu n'a pas de considération si t'es juif ou si t'es païen ou si t'es un Canadien français ou que tu sois un Américain, que tu sois de la Italien, peu importe la race. Dieu, il aime toutes les races. Puis Dieu, quand il sauve une personne, il donne son Saint-Esprit. Puis cette personne-là vient d'être greffée à son corps. Le corps de Jésus. C'est comme si sur la terre, on est le corps de Christ. Le corps du Messie. sur la terre. C'est comme si Jésus, Yeshua, est encore sur la terre. C'est lui, quand il était dans son corps physique, il était seul. Quand il est mort, puis il est ressuscité, il monte au ciel, il dit, je vais vous envoyer mon esprit et je serai en vous, que ça dit. C'est comme si Jésus, il est revenu dans le Saint-Esprit pour entrer en chacun de ceux qui l'ont accepté. Fait qu'ils deviennent comme si moi je suis une partie de Yeshua, Jésus. Chaque croyant sur la terre, on est comme une partie de Jésus sur la terre. L'ensemble des croyants, on est le corps de Christ. On devient un seul corps pour former on est comme tous des représentants de Jésus sur la terre. Animés de l'esprit de Jésus, de Yeshua, qui est en nous, parce qu'on lui a donné notre vie, il rentre en nous, on est greffés ensemble pour faire un seul corps. Puis là, il dit, de cette façon-là, le corps, il n'est pas juste un membre, mais il est formé de plusieurs membres. Moi, mon corps est formé de plusieurs membres. J'ai des jambes, j'ai des bras, j'ai une tête, j'ai un corps. J'ai plusieurs membres pour faire un seul corps. Mais le corps de Christ sur la terre, le corps de Christ, un seul corps, est formé de plusieurs membres. C'est qui ces membres? Chacun de nous autres qui a donné notre vie au Seigneur. Moi, je suis un membre de Christ. Je suis un membre et j'ai des fonctions à faire en tant que membre. Mon bras, là, gauche, mon bras droit, là, il y a des choses à faire pour aider le corps. Mon bras gauche, il y a des choses à faire pour aider le corps. Mes jambes ont quelque chose à faire pour aider le corps. Oui.
Quand une personne dit « j'ai un corps de plusieurs membres », c'est compatible. Mais le fait que Dieu ait beaucoup de membres qui ont plusieurs membres, que des fois, ils ne sont pas tous compatibles.
Mais à cause qu'on est abreuvé du même esprit, il faut apprendre à travailler ensemble.
C'est sûr, il y a du monde qui ne comprennent pas pour joindre les autres membres pour qu'on soit tous compatibles.
Oui, mais ça, il faut l'apprendre parce que c'est la règle de l'amour.
C'est le but du Créateur, c'est que tout le monde soit compatible.
C'est ça.
Le plus possible parce qu'il veut sauver tout le monde.
Exact. Tu l'as. Là, il dit, on est dans le corps, mais ce corps-là, le corps de Jésus, est formé de plusieurs membres. Là, si le pied, il dit, parce que je suis pas une main, je suis pas un membre du corps. Le pied, il se trouve, mettons, s'il dit, je me plains, là, le pied se plaint, puis il dit, je suis pas content d'être un pied, moi, j'aurais aimé être une main, à cause de ça, moi, je serais pas parti de ce corps-là. Non. Parce que le pied, il a été mis là, dans ce corps-là, puis il a à faire sa job de pied. Puis la main a à faire sa job de la main. Puis si on lit le reste on continue à dire, dans le reste du verset, ça dit, mais la main n'a pas d'affaire à dire au pied, t'as pas d'affaire là. Parce que dans le corps, t'as besoin du pied, puis t'as besoin aussi de la main. C'est important que chacun réalise son rôle dans le corps de Christ. Fait que là, moi, je suis un membre du corps. Chacun de ceux qui ont donné le vœu au Seigneur sont un membre de ce corps-là. On forme un seul corps, mais on est plusieurs membres. Chacun doit apprendre son rôle, sa fonction. On n'est pas tous des pieds, on n'est pas tous des mains. On est tous différents. Mais on a à apprendre à travailler avec les dons qu'on a reçus pour mettre ça, pour que le corps puisse en profiter. Dieu nous a rachetés, nous a sauvés pour qu'on fasse partie de l'ensemble de son corps qui est sur toute la terre. L'Église universelle, le rassemblement de toutes les croyantes sur la terre qui est son corps. Fait que si je réalise que j'ai des dons, je peux pas dire à un autre chrétien, toi, t'as pas d'affaires ici. Non. Lui tout, il a des dons. Mais lui tout, c'est pas les mêmes dons que moi. Mais lui, s'il fait un job de pied, moi, je fais un job de bras. Mais on a chacun notre job à faire. Puis, il est aussi important que moi. Parce qu'un corps qui manque un pied, le corps au complet, il en souffre. Puis, si un corps manque une main, qui manque une main, il manque un bras, le corps au complet en souffre qu'il manque un membre. Tous les membres du corps sont importants, puis il faut que tout le monde réalise sa position dans le corps. Puis que Le bras, ça doit y arriver d'aller gratter le pied parce que le pied, ça y pique. Le corps souffre parce que le pied, ça y pique. Mais le bras doit s'étendre pour aller gratter le pied. Fait qu'on...
La NASA avait pensé à ça.
Oui, on fait un bras. Un bras pour mettre dans, après à se fuser pour pouvoir refaire les travaux à l'extérieur.
C'est le Canada qui a fait ça.
Oui. Un bras canadien.
Oui, c'est le Canada qui l'a fait. C'est un savant au Canada qui l'a pensé. Voyez-vous, dans le corps de Jésus, dans le corps de Christ sur la terre, on est des membres du corps, puis on est important d'être là à notre place, avec le reste du corps. Si je dis, ah, oh, ben moi, je fais pas partie de la gang, je reste chez nous. Si mon bras, il essaye de dire, moi, je veux pas faire partie de ce corps-là, je vais rester chez nous. C'est où, chez eux, puis ce bras-là?
Il va aller jusqu'à l'épinier de la main.
Même pas. S'il dit, moi, je fais plus partie de ce corps-là, il m'intéresse pas, ce corps-là. Où est-ce qu'il va aller, le bras? Mais il va être arraché du corps. Qu'est-ce qui va arriver s'il est arraché du corps? Il va mourir. Parce que sa vie, à ce bras-là, il ne sait pas, lui, mais la tête le sait. Ce bras-là a besoin du corps pour avoir le cœur qui pompe du sang et qui puisse participer aux bienfaits que le corps va y accorder. C'est voulu par Dieu que le bras soit greffé après le corps et qu'il puisse recevoir le sang, recevoir les vitamines quand on mange, recevoir tout. Puis il reçoit les ordres du cerveau aussi, puis l'électricité du cerveau pour pouvoir bouger. Il ne sait pas le bras qu'il n'a besoin du corps. La tête, elle sait que le bras n'a besoin. Mais si le bras se dit, moi, j'ai plus besoin du corps, puis je décide de rester chez nous, il s'arrache du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Il va pourrir, puis il va retourner en poussière. C'est la même chose pour un chrétien. Un chrétien ne peut pas penser de fonctionner dans la vie chrétienne tout seul. Tu peux pas penser que je suis chrétien, puis j'ai pas besoin des autres chrétiens, puis je décide de me sortir de ce corps-là, puis je veux rester chez nous. Automatiquement, tu viens de t'empêcher de recevoir ce que le corps aurait pu t'apporter pour ta croissance spirituelle. Tu avais besoin d'être greffé à ce corps-là pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut donner à travers de ce corps-là, puis te nourrir spirituellement. Faut que tu demeures greffé au corps. Si tu veux continuer à vivre spirituellement. Parce que c'est sûr que tu vas lâcher dans ta course, puis il n'y aura pas personne pour te relever. Quand on a vu tout à l'heure, deux valent mieux qu'un, mais s'il y en a un qui tombe, l'autre peut le relever. Mais quand tu fais partie du corps de Christ, puis tu restes greffé au corps, tu vas toujours avoir un chrétien qui peut te donner une parole, qui peut te donner un encouragement, qui peut prier pour toi, qui peut t'aider dans ce que tu as à faire, puis tu finis par avancer dans ta vie. Tout est déjà installé par Dieu pour ce plan-là. Le corps de Christ doit apprendre à tirer sa force, à tirer de la force les uns des autres pour atteindre notre vision. Il y a un verset dans Éphésiens 4:16 qui nous dit ça. Il disait de Jésus là, que grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, il forme un solide assemblage, puis il tire son accroissement selon la force qui convient dans chacune de ses parties, puis il s'édifie lui-même dans la charité. Qu'est-ce que je dois comprendre de ce verset-là? C'est que c'est dans le plan de Dieu qu'on apprenne à fonctionner en tirant nos liens, puis l'assistance qu'on a besoin du corps de Christ. Dieu a placé dans son corps tout ce que j'avais besoin pour ma croissance spirituelle. Dieu a placé dans son corps tout ce que tu as besoin pour ta croissance spirituelle. Dieu a placé dans son corps tout ce que tu as besoin pour ta nourriture spirituelle, pour avancer spirituellement. Dieu, il veut que son corps forme un solide assemblage, qu'on soit unis, puis qu'ensemble on soit de plus en plus fort, puis ça dit qu'on va... On va être tissés ensemble grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage et tire son accroissement selon la force qui est donnée à chacune de ses parties. Fait que plus qu'on reste greffé au corps, plus qu'on se fortifie personnellement, Puis plus que je suis fortifié personnellement, plus je vais être capable de fortifier l'autre. Puis l'autre, plus qu'il va être fortifié, plus qu'il va être capable de fortifier l'autre. Fait que tout ensemble, on se fortifie tout le monde, puis on devient de plus en plus fort dans le Seigneur. C'est important qu'on reste connecté, qu'on reste ensemble, parce que Dieu va me donner ce que vous avez besoin, puis il va vous donner ce que j'ai de besoin. Puis tout ensemble, on continue à se fortifier pour faire l'œuvre selon l'appel qu'il nous a appelé. Seul, je ne serais jamais arrivé à être ce que je suis aujourd'hui. J'ai compris que c'est important de rester dans une église, d'aller dans une église, puis d'aller aux réunions qu'il y a. Il y a une réunion dans la semaine, une réunion la fin de semaine. J'écoute la parole de Dieu. Puis à force d'y aller, puis à force de prendre des temps avec le Seigneur m'a fortifié là-dedans. Puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux partager ce que je comprends, puis ça va vous fortifier. Puis ce que vous allez recevoir en étant fortifié, vous êtes capable de le dire aux autres. Puis c'est de même qu'on a... Il dit « Enseignez-leur ». C'est de même qu'on peut partager la connaissance, et toute la gang ensemble, on va se fortifier, puis on va faire l'œuvre que Dieu nous demande.
Puis il dit, à quelque part, on se nourrit pas seulement que de nourriture.
De pain seulement.
De pain. On se nourrit de paroles.
De la parole de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit.
Parce que la nourriture est là.
Exactement, c'est ça. Jésus lui-même, on se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais, c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il faut fréquenter une église locale, un lieu de rassemblement qui est proche de chez nous, puis aller se nourrir spirituellement pour aller se fortifier de semaine en semaine. Si on le fait, dans 5 ans, on va être encore debout en train de servir le Seigneur. Dans 10 ans, on va être encore debout en train de servir le Seigneur. Puis quand que Jésus va arriver, on va être encore debout en train de servir le Seigneur. Il est important qu'on soit debout en train de servir le Seigneur. Parce que si on abandonne à moitié chemin, on ne rentre pas. Puis si on ne rentre pas, on est fait, là. C'est l'éternité séparée d'avec Dieu. On ne peut pas se permettre de manquer l'enlèvement. Ou notre mort personnelle, ça peut arriver qu'on meure au bout de 20 ans. Il ne faut pas mourir loin du Seigneur et qu'on l'ait abandonné parce qu'on est perdu. Il faut mourir, puis il dit « Heureux son serviteur qui le maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi, en train de travailler dans l'œuvre. » Il va l'établir sur tous ses biens. Il va nous établir si on est debout en train de travailler.
Mais est-ce que tu trouves-tu qu'il y a des églises qui sont plus vivantes?
Toutes les églises passent par des moments plus down, puis après ça, il y a des moments de réveil. Des réveils, c'est pour l'Église un réveil. Tout, même si on y va à titre individuel, tout chrétien a eu des moments d'âme, puis a eu des moments de réveil.
Des moments endormis, des moments réveillés.
C'est ça qui est le point. C'est le contraire d'un réveil, c'est être endormi. Fait que tout chrétien, ça peut y arriver de tomber endormi. Mais on a tous de besoin de se réveiller, parce que le temps y est court. Puis quand une église est endormie, il faut prier que Dieu envoie un réveil, puis là l'église se remet à l'œuvre, ils sont excités, puis la joie elle est là, puis là ils sont pleins de force, puis d'entrain à faire ce qu'ils ont à faire pour l'œuvre de Dieu.
Juste que moi je trouve c'est frustrant quand j'ai un zèle pour le Seigneur, puis je veux avancer, puis j'ai plein de choses, puis là, on dirait mon église est endormie, puis c'est frustrant, on voit, puis des fois j'ai le goût de lâcher prise, parce que je t'en...
Je comprends ça, j'ai déjà vécu les mêmes affaires. C'est frustrant quand les autres, quand les chrétiens s'aident pour. Les chrétiens, normalement, ils seraient supposés de, comme je viens de l'expliquer, on forme le même corps, puis on serait supposé de se bénir, puis se fortifier, puis qu'on travaille, puis on devient de plus en plus fort, puis là, on produit. Ça devrait être ça, en principe. Mais ça arrive que, il y a des périodes qu'on tombe endormi, puis on réagit plus humainement parlant que spirituellement. Mm-hmm. Puis là, on se tape dessus, puis on se dit des insultes, puis on est froid les uns vers les autres, qu'on manque d'amour, comme qu'on a dit tantôt. Puis là, on n'a pas... En réalité, là, ce qui nous soude ensemble, c'est comme un mur de briques, là. Un mur de briques, ce qui le retient ensemble, c'est tout le ciment qu'il y a entre chaque joint. Parce qu'un mur de briques sans ciment n'a aucune force. C'est le ciment qui retient tout ça. Puis, c'est quoi qui est le ciment de des chrétiens dans une église?
L'amour.
L'amour. Quand il y a de l'amour, on va être tous soudés. C'est quand qu'on commence à manquer d'amour qu'on commence à se disloquer les uns les deux, des autres.
Mais il y a une place, c'est écrit, il y a deux chemins. Il y en a un qui est bien beau, puis...
Bien large, bien spacieux.
Mais il y en a un qui est...
La porte est étroite, puis l'étroite.
Il est long, puis ça a l'air que des fois, t'es plat.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il est con.
Ben, ça a l'air que c'est le bon chemin, là, ouais. Le plus long, puis celui qui
c'est un chemin tough.
Périlleux.
Étroit et périlleux.
C'est parce que avoir tout cuit dans le bec dans la vie, là, ça fait des bandits. Puis,
c'est vrai?
C'est écrit dans la Bible, prends le chemin le plus étroit possible, le plus...
Droit.
Ça veut dire que ta vie, il faut ta gagne, parce qu'on est ici, parce qu'on l'a mérité d'être
ici.
On a la chance de se racheter aussi. C'est écrit dans la Bible.
Mais le cadeau que Dieu te fait quand tu lui donnes ta vie, il te pardonne tes péchés, fait que t'es sauvé. Fait que là, à cause que tu sais que t'es sauvé, tout ce que tu veux faire, tu veux y montrer au Seigneur que tu l'aimes, tu dis « Seigneur, je vais obéir à ta parole. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Là, tu vas louer le Seigneur, tu vas vouloir le servir avec tes dons. C'est à cause qu'on aime le Seigneur qu'on est prêt à y aller et à faire ce qu'on a à faire. Pas pour gagner notre ciel, parce qu'il est déjà donné gratis.
On n'est pas ici pour payer une dette. Là. On est
et payer déjà
on
la
est
dette.
Ici, nous autres, parce qu'on a eu la gracieuseté de Dieu.
C'est ça. Un cadeau.
C'est un cadeau qu'on a eu d'être ici.
C'est
présent.
Ça.
C'est de la gracieuseté.
Oui, t'as une gracieuseté de Dieu.
C'est gratis.
Oui, c'est gratis.
Dieu nous a fait un cadeau.
Oui.
Il nous a donné la vie éternelle.
Oui.
On a le choix. On peut la perdre. La
vie. Oui, on peut refuser ce qu'il nous donne ça, quand on peut l'accepter.
Que c'est que t'en saignes, ça a du bon temps.
Gloire à Dieu.
Ça arrive aussi que le cerveau, il meurt, puis là, que les organes sont réduits à un autre corps. Ça vient d'aller voir.
Mais le cerveau ne marche plus, c'est ça.
On a gardé
le
cerveau d'une machine, puis on
a
pris les organes, d'autres organes. OK, donc,
le gars,
il a... On t'est graffé
avec
le corps, là.
Le gars, il a eu un gros accident, puis son cerveau, il est...
Il a
le cerveau,
pas de
câble. Le cerveau, il a
cerveau,
pété.
Il
là, ils l'ont gardé en vie artificiellement.
Parce que
jusqu'à temps qu'il prenne ses organes pour les donner à des dons d'organes.
C'est bien ça.
Ça veut dire que quand, mettons, c'est une église, je pense ça, mais une église viendrait qu'à fermer parce que ça ne fonctionne plus spirituellement. Les membres de cette église-là peuvent aller dans une autre église puis ils vont être encore en vie. C'est qu'on est pas. C'est comme si tu vas dans un restaurant puis tu n'aimes pas ça, la pizza qu'ils vendent à ce restaurant-là. Est-ce que tu vas décréter un jeûne pour le reste de ta vie? Non. Tu vas dire, je vais aller à l'autre restaurant, peut-être qu'on va être meilleur à l'autre place. Si tu vas aller manger à l'autre restaurant. Mais c'est que tu n'arrêtes pas de manger parce qu'il y a un restaurant qui n'est pas bon.
Il me semble que ça aurait été plus simple déconnecter le gars et y mettre la tête sur l'autre corps.
Oui. Mais ils ont de la misère à le faire.
Ça ne marchera pas.
Là, je vais y aller rapidement, finir les trois versets qui me restent. Jésus, là, savez-vous que lui-même, Jésus, qui était Jésus, là, il n'a pas cherché à fonctionner tout seul.
Là, il m'a fait avec ses apôtres.
Il était toujours entouré. Hein?
Il était toujours entouré. Jésus lui-même a su s'entourer de personnes pour l'aider dans son ministère. Ça nous dit dans Luc 8, au verset 2, les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti sept démons, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ça veut dire qu'il y avait toujours une gang autour de Jésus, les douze apôtres, puis toutes les autres femmes, puis plusieurs autres qui étaient là, qui assistaient Jésus. Hein, les gens qui étaient là autour, ils assistaient Jésus de leur bien. Jésus, tout seul, n'aurait pas pu faire son ministère qu'il a fait. Il avait besoin d'une équipe qui l'entourait, puis des gens qui l'aidaient même financièrement, qui assistaient Jésus dans son ministère. Dieu veut nous faire réaliser une vérité là-dedans. Dieu, peut-être qu'il nous a appelés à un appel, à une job spécifique, mais en attendant, tant qu'on n'est pas rendu là, il n'y a rien qui empêche qu'on aide les ministères qui sont déjà là autour de nous. Autant que les gens étaient prêts à aider Jésus dans son ministère. C'était pas le ministère de Marie de Magdala, c'était le ministère de Jésus. Marie de Magdala aidait Jésus. Ils n'ont pas dit que c'était le ministère de Marie de Magdala. Comprenez-vous? Ça se peut que Dieu veut que tu mettes tes dons au service de quelqu'un qui est dans le ministère. Si tu n'as pas montré de ministère précis à t'impliquer pour que tu sois autonome puis que tu aies ton équipe qui te suit, mais ça se peut qu'en attendant que Dieu veuille que tu joignes quelqu'un d'autre qui est déjà en train de servir dans l'œuvre, puis tu vas l'aider de tes prières, de tes aides financières, de ton soutien pour être présent avec lui, tu vas l'accompagner dans ce qu'il fait. Dieu veut qu'on mette nos dons au service des autres. Fait que s'il y a un ministère autour de chez vous qui a besoin d'aide, profitez-en pour vous impliquer avec lui. Toutes les bénédictions et les fruits de ce ministère-là vont vous revenir en récompense à vous aussi. Il y a un verset qui dit, celui qui donne un verre d'eau à un des plus petits, il va avoir la récompense. Puis que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Chaque fois que tu aides un ministère, comme là, un ministère de prophète, tu l'aides dans son ministère, tu vas recevoir les récompenses de son ministère.
En anglais, il dit « Everyone needs someone ».
C'est ça. Puis quand que, si on va plus loin... Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il les envoyait deux par deux. On voit ça dans Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoyait deux à deux devant lui dans toutes les villes puis dans les lieux où il devait lui-même aller. Dieu, il faisait des équipes. C'est des équipes. Il veut qu'on apprenne à travailler en équipe. Il veut qu'on ait l'esprit d'équipe. Il ne veut pas qu'on ait un esprit d'individualité. L'appel du Saint-Esprit pour l'apôtre Paul, on voit souvent l'apôtre Paul, il a écrit ci, il a écrit ça, il a fait ci, il a fait ça. Il y a plein de choses que l'apôtre Paul a faites. Hein? Mais l'apôtre Paul, il n'était pas tout seul quand il était appelé dans le ministère. Quand il était dans Actes 13, 2, ça nous dit, quand il était dans une réunion, dans une église, là, à Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il n'a pas appelé juste Paul, il a appelé Barnabas et Paul. C'est une équipe que Dieu a appelée, c'est pas un individu. Dans ses voyages, Paul, il a fait des voyages avec des équipes. Il a travaillé plusieurs voyages missionnaires avec Barnabas. Il a travaillé avec Timothée. Il a travaillé avec Sylvain. Il a travaillé avec Trophime. Il y en a plein de noms qu'une Priscillas et Aquilas. Il y a plein de noms qu'on voit dans la Bible qui sont des compagnons de Paul pour son œuvre missionnaire. Des gens qui ont accompagné Paul. Partout où Paul allait, il n'était jamais tout seul. Rarement tout seul. Dieu veut qu'on apprenne à travailler en équipe.
Non, parce qu'il n'aurait pas pu se sauver dans le
pays
du sol.
Oui, quand ils l'ont descendu de la muraille, il a fallu, parce que la ville, dans la ville de Damas, ils voulaient le tuer.
Ouais.
Fait que là, oui, Paul, pour se sauver, il y a des disciples qui ont descendu Paul le long de la muraille, par endroits, dans un panier. Parce qu'ils ne pouvaient pas passer la porte pour la ville, ça aurait fait pogner, puis ça aurait fait tuer. Ils l'ont sorti. Fait que quand tu travailles en équipe, si t'es un gars qui travaille tout seul, tu t'en sors pas dans cette situation-là. Faut que tu sois en équipe. Il y a des versets que j'ai sorti quelques petits mots qui dit Paul, il y avait des compagnons de voyage, il y avait des compagnons de captivité, il y avait des compagnons d'œuvre, il y avait des compagnons de combat, il y avait des compagnons de service. C'est tous des versets différents que Paul mentionne. Qui parle avec ses compagnons de voyage, ses compagnons de captivité, ses compagnons d'œuvre, ses compagnons de combat, ses compagnons de service. Dans tout ce que Paul avait à faire, il y avait des compagnons. Il y avait du monde qui était avec lui pour faire son ministère. Maintenant, Chacun de nous, on est appelé, Dieu a fait un appel, il veut qu'on le suive, qu'on le serve. C'est la même chose pour nous. Si on n'est pas placé comme dans un ministère en charge d'un ministère précis, personnellement, si on n'est pas encore placé là, c'est notre devoir de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les ministères qui sont là. Qu'on se greffe à ces ministères-là, qu'on les aide, et ceux qui sont impliqués, à faire ce qu'ils ont à faire. Comme là, ici, ce soir, c'est un ministère, ça. Dieu veut faire qu'on fasse comme une lumière dans Beauharnois, qu'on soit là pour parler de Jésus dans Beauharnois. Bon. Fait que le fait qu'on est réunis ici, là, c'est le plan de Dieu, c'est comme un ministère. Il y a besoin de chacun de vous pour se greffer au groupe, pour pouvoir être là, pouvoir prier quand c'est le temps de prier, louer quand c'est le temps de louer, écouter la parole, après ça évangéliser. Pour faire l'œuvre, ça prend une équipe, tout seul. Moi, tout seul, je peux rien faire. Mais Dieu vous a mis là, dans ce but-là, pour que vous soyez greffés, puis vous épousiez, participer. Puis si vous allez dans une grande assemblée dimanche, mais c'est la même chose. Posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette église-là? Il y a sûrement quelque chose que vous êtes capable de faire, de mettre vos dons au service de l'œuvre. Puis tous les fruits qu'il va avoir à la fin de la vie, les fruits de cette église-là, ou les fruits de l'église maison, ou les fruits des œuvres d'évangélisation, si vous avez participé avec les personnes qui étaient dans le ministère, vous allez recevoir les mêmes récompenses. Mais si on dit, oh, ça c'est pas mon ministère, je reste chez nous, puis on s'implique dans rien, mais dès qu'on arrive l'autre bord, on n'aura pas de récompense. C'est de même ça marche.
Ils disent, tu vas récolter ce que
c'est ça. Si t'as rien semé, tu récoltes rien, puis si tu étais généreux de ton temps et de ce que tu avais pour mettre à disposition de l'œuvre de Dieu,
ça va être remis en centre.
Tout ce que tu as fait pour le royaume de Dieu, Dieu va te le remettre et il va te bénir avec ça. Que ce soit pour n'importe quelle personne qui est impliquée, tu te joins avec quelqu'un, si tu vois un évangéliste puis tu aimes ça l'évangélisation, tiens-toi avec cet évangéliste-là. Si tu vois un missionnaire qui fait de l'œuvre, des bonnes œuvres, puis tu aimes ça, faire ça, tiens-toi avec ce gars-là, puis aide-le. Si tu en as d'autres, c'est des enseignants, et tiens-toi avec les enseignants, tu vois. Il y en a plein de monde qui sont impliqués dans toutes sortes de façons. Puis si jamais... un jour, vous avez mis vos talents, vos dons au service du Seigneur, puis vous allez prendre l'expérience, puis là, après ça, Dieu va voir que vous êtes fidèle dans les petites choses, il va vous en confier des tâches précises pour chacun de vous,
des
plus grandes, puis vous allez pouvoir servir, puis il y en a d'autres qui vont se mettre avec vous autres pour vous aider à faire ce que vous avez à faire. C'est de même, ça marche. On est un corps. Toute la gang... l'amour doit nous unir, mm-hmm. Puis on ne doit pas tirer notre force les uns des autres pour se solidifier, puis grandir,
pour glorifier Dieu. Paul dit, sinon, parce que ça me vient, Paul dit dans la parole, il dit, soyez mes imitateurs.
Oui. Oui. Parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, Paul, c'était... d'enseigner, de révéler les choses qu'on n'aurait pas pu connaître, parce que la majorité de ce qu'on a appris dans la parole de Dieu, ça vient de lui. C'est un don qu'il avait. Dieu l'a utilisé, puis il est entouré de personnes pour faire ce qu'il avait à faire. Il ouvrait une église ici, il ouvrait une église là, il allait les revisiter.
Oui,
fait que tous ceux qui étaient avec pour l'aider, ils vont avoir les récompenses que Paul a eues. Quand il dit « Soyez mes imitateurs », c'est tout du monde qui ont vu aller Paul dans son zèle, dans son service pour Dieu, puis d'évangéliser tout le monde, puis tout ça, puis il est en équipe avec d'autres. Tout le monde a vu ça aller, il dit « Imitez-moi ». Fait que quand tu te mets à faire ça, tu rentres dans le plan de Dieu, c'est exactement ce qu'on a vu, un travail d'équipe, ensemble, puis on bâtit des choses. Tout seul, on bâtit.
C'est pas un gars de bureau.
Non, t'as pas un gars de bureau. Non. Mais il y avait un secrétaire qui aidait à écrire ses affaires. Des fois, non, il écrivait lui-même.
Quand Jésus est allé chercher, c'était pas un gars de bureau, hein?
Non.
C'était un meurtrier.
Oui. C'était un bourreau.
Tu sais comment dire, choisi.
C'était un gars de bourreau.
Il n'y a pas aucune. Je cherche un mot, là. Il n'y a aucune différence. Il ne fait pas de distinction.
Distinction.
Paul était un meurtrier. c'est Dieu, il a dit. Mais qu'est-ce qu'elle a à Paul? Même pas le cri à Dieu pour alléger sa. Il dit, ma grâce te suffit. Mais. Pas le fait, qu'est-ce que Jésus a demandé?
Oui, il a persévéré, il était fidèle à ce qu'il avait. Fait qu'on va prier le Seigneur pour fermer ça, la réunion. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on vient te remercier pour ta parole, qui nous donne une vision claire de l'appel que tu fais dans nos vies, que c'est un travail d'équipe, Seigneur, que tu nous appelles. Je te demande, Seigneur, de nous apprendre, de nous montrer à chacun de nous quels sont les dons qu'on peut mettre au service des autres, pour qu'on puisse le faire avec une joie parce qu'on aime les frères et sœurs. Qu'on puisse soutenir les ministères qui sont déjà existants, puis qu'on puisse voir, Seigneur, à faire avancer ton œuvre ensemble. Je te demande aussi, pour ceux qui s'impliquent, qui sont déjà appelés pour des tâches précises, je te demande de donner la capacité de gérer les équipes afin qu'il n'y ait pas personne qui soit froissé, blessé, parce qu'ils ont... Ils ont été mis de côté ou ainsi de suite, que chacun puisse trouver sa place et le faire avec joie. Fait qu'on remet nos vies entre tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.
Amen. Amen.